Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le Comité des droits de l'homme et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ont tous deux terminé leur session en ligne la semaine dernière. Ces deux comités font partie de ce qu'on appelle les organes de traité qui se réunissent à Genève, pour la plupart au Palais Wilson, là où se trouve le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Leur travail est peu connu du grand public et pourtant leur rôle est très important. Ce sont eux qui veillent à la mise en œuvre des grandes conventions des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Tous les États sont tenus de venir expliquer devant les experts de ces comités ce qu'ils ont pris comme mesures pour mettre en œuvre les dispositions des conventions qu'ils ont adoptées. Ces comités jouent aussi un rôle très important pour les victimes de violations des droits de l'homme. La plupart ont la compétence d'examiner des plaintes de la part de citoyens qui estiment que leurs droits ont été bafoués par les États. Au cœur de ce dispositif, le service des pétitions et des actions urgentes du Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui gère des milliers de dossiers chaque année. C'est là que travaillent Myriam Tebourbi et Anna Batala, des juristes passionnés. Ce sont nos invités de la semaine. Anna Batala, Myriam Tebourbi, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le service des pétitions ?
Nous sommes un service au sein du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est en charge de recevoir toutes les plaintes que des individus soumettent contre des États dans le cadre, j'allais dire, de conventions des droits de l'homme. C'est un service juridique, on va dire, le service juridique d'individus qui soumettent des plaintes contre des États.
Anna Batalas, vous étudiez toutes ces plaintes et vous décidez de les enregistrer ou non ?
Ce n'est pas nous qui décidons, en fait, ce sont les comités. C'est un mécanisme volontaire, donc d'abord, déjà, il faut que les États aient ratifié les traités, donc aient reconnu la compétence des comités pour recevoir des plaintes. Et après, il y a des conditions de recevabilité, ce qu'on appelle de conditions qui doivent être remplies, parce que c'est un mécanisme quasi-juridictionnel. On dirait une sorte de, même si ce n'est pas une cour internationale, il fonctionne comme une cour.
Anna Batala, pour que ce soit bien concret pour les auditeurs, est-ce que vous avez quelques exemples de ces plaintes que vous recevez ? Dans quel domaine ?
Oui, alors on reçoit beaucoup de plaintes sur le domaine de la migration. Je dirais que c'est largement le plus courant. Donc ce sont des cas de non-refoulement, de cas où il y aurait un risque pour la personne en cas de déportation ou d'extradition dans leur pays d'origine, de risque de torture ou de risque pour leur vie, typiquement, ou des cas de réunification familiale aussi qui sont reliés à la migration. Des cas de personnes, enfants non accompagnés, de migrants, de cas de détermination de leur âge, donc beaucoup de cas sur la question de la migration. Mais on a aussi des cas sur des procès équitables, des cas sur accès à l'éducation, à la santé, des cas de violation des droits des femmes, de personnes handicapées. On a beaucoup de différents domaines à traiter.
Myriam Tebourbi, oui. Une fois que vous recevez ces plaintes, et que vous les enregistrez, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus ?
Une fois que la plainte est reçue, donc on attend de l'État la réponse. C'est un processus contradictoire, exclusivement écrit. Et une fois que tous les arguments sont mis ensemble, notre service prépare un projet, j'allais dire, de décision, comme pour une cour. Et les comités les revoient et adoptent une décision qui peut être une décision d'irrecevabilité, de non-violation, de violation. Et donc le comité se base sur les informations qu'il a pour ce cas précis, pour déterminer si oui ou non il y a une violation.
Si une violation a été déterminée par le comité, qu'est-ce que ça signifie pour celui qui a déposé la plainte ? Est-ce qu'il peut demander après des comptes ? Comment ça se passe ?
Oui, alors dans le cas où il y a une déclaration de violation, il y a d'abord une reconnaissance pour la victime, et ça déjà c'est une sorte de réparation. Mais après, dans les décisions de violation, il y a toutes des mesures que le comité demande à l'État qui soient prises, notamment de compensation à la victime, de refaire un processus judiciaire qui était taché d'irrégularité, par exemple, demander même que la personne soit libérée. Il y a toutes des mesures différentes qui peuvent être demandées, ou aussi des mesures plus amples, comme changer une loi, quand c'est la loi la cause du problème ou de la violation.
Donc vous êtes en charge du suivi. Est-ce que vous avez constaté justement un impact par rapport à toutes ces décisions qui sont prises, par rapport à ces plaintes individuelles ?
Il y a une évolution positive largement. On a quelques exemples d'impact suite à une décision qui était enregistrée, à un cas qui était enregistré avec le comité des droits de l'enfant. Un enfant en Espagne, un enfant marocain de 9 ans, a pu accéder à l'école. après avoir été privé pendant 2 ans de l'accès à l'école en raison de son statut en tant que migrant irrégulier, considéré irrégulier. Un autre exemple, je pense, des victimes de violences domestiques qui ont reçu une compensation en Espagne. C'était un cas très important parce que suite à la décision du comité de la CEDAW de l'élimination de la discrimination contre la femme, la Cour suprême de l'Espagne a non seulement implémenté la décision de la CEDAW, mais elle a reconnu que les décisions des comités étaient contraignantes. Donc ça, c'est très important. C'est la première fois qu'une Cour suprême d'un pays reconnaît cela. Un autre exemple, c'est des cas de CRC qui ont permis, de comité des droits de l'enfant encore, qui ont permis la réunification familiale ici en Suisse ou en Danemark. Donc ce sont des exemples qui ont eu un clair impact, qui ont changé la vie des victimes après de longues procédures au niveau interne et international, on est clair, mais qui ont eu un résultat et un impact positif.
Est-ce que je peux juste rebondir sur quelque chose que Anna vient de dire ? Qui est parmi les cas qu'elle a mentionné, parce que là, vous avez posé la question lorsqu'il y a une décision de violation. Mais en fait, on a remarqué, notamment dans le cas du comité des droits de l'enfant, que le fait même d'enclencher la procédure a un impact. C'est-à-dire que le cas de Anne que mentionné au début sur l'accès de la fillette à l'éducation, le comité n'a même pas eu à examiner tout le cas jusqu'à la fin et à déclarer une violation. C'est-à-dire que le pays saisi de l'affaire a immédiatement réagi. Donc, on voit que, j'allais dire, il n'y a pas nécessairement la nécessité d'aller jusqu'au bout de tout le processus. Et si je peux aussi mentionner, Anna donc a mentionné les impacts précis sur certains individus, et peut-être mentionner un ou deux impacts sur le plan plus général, sur le plan de la législation. Par exemple, dans le cadre de la Corée a imposé aux enseignants venant de l'étranger le test du sida. Donc, une enseignante étrangère donc, a soumis le cas contre la Corée en arguant justement de la discrimination. Et à la suite de la décision du comité qui a déclaré qu'effectivement, il y avait discrimination, eh bien, la Corée a revu sa législation et il n'y a plus l'obligation de faire ce test pour les enseignants étrangers. Et aussi, j'allais dire, il y a des cas où il n'y a pas nécessairement de violation qui est déclarée, mais où il y a potentiellement, j'allais dire, un impact. Dans une décision récente, le Comité des droits de l'homme, même s'il n'a pas reconnu de violation dans le cas d'espèce, il a quand même reconnu que les changements climatiques pouvaient donner lieu à des demandes d'asile sur la base de ces changements climatiques. C'est-à-dire que les dangers liés au changement climatique avaient un impact tel sur la vie d'individus qu'ils pouvaient éventuellement venir devant les instances et demander ce qu'on appelle l'asile environnemental.
Alors, on vit dans une période particulière. Plusieurs experts des droits de l'homme ont observé une dégradation des droits de l'homme dans le monde depuis le début de la pandémie. Avez-vous reçu davantage de plaintes durant cette période ?
En fait, pas vraiment, mais c'est aussi lié à la nature, j'allais dire, du processus. Comme il est important justement qu'il y ait eu des mesures, enfin en tous les cas la demande de réparation sur le plan national, c'est-à-dire que les cas aient été portés devant les tribunaux nationaux et qu'il y ait eu justement la considération et peut-être donc la non-reconnaissance de la violation. Donc, il va y avoir un décalage entre le moment où les plaintes, où la violation ou prétendue violation a eu lieu et le moment où nous serons saisis, où les comités seront saisis. Donc voilà, mais au niveau de nouvelles plaintes en tant que telles, pas autant que ce qu'on pourrait penser en fait. Mais voilà, c'est dû à ce décalage entre les procédures internes et internationales.
Un autre défi, justement, peut-être par rapport, là, plus globalement pour les droits de l'homme, c'est les contraintes financières qui touchent les Nations Unies, mais aussi plus particulièrement le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Est-ce que ça a un impact sur votre service et sur le travail de votre service ?
Assez directement, oui. oui, assez directement. Ouais. Nous sommes en train de perdre de nombreux collègues qui étaient sur aussi des contrats temporaires. Mmh. Nous n'avons pas la possibilité, à cause des liquidités, de les renouveler. Donc, notre équipe, qui est quand même relativement, on va dire, petite par rapport au volume de travail, est directement impactée par les contraintes budgétaires.
Il faut dire qu'il connaît une vingtaine d'avocats à travailler, à gérer toutes ces plaintes dont on parlait, des milliers par an. et gérer, c'est-à-dire faire le triage, l'enregistrer, faire la recherche pour le cas, gérer les dossiers, les transmissions entre les parties, rédiger les décisions pour qu'elles soient adoptées par les nombreux comités. Donc c'est un travail dont une partie est invisible, comme Myriam disait, surtout le triage, le travail de triage. Mais c'est un travail que, si on compare à des systèmes régionaux, à des tribunaux régionaux qui font un travail ressemblable, c'est une équipe déjà très, très, très réduite. Et là, on a le défi qu'on est en train encore de perdre des collègues. Donc ça, c'est un impact clair sur le travail, mais surtout sur les victimes. Parce que derrière de chaque cas, il y a des victimes, des individus qui attendent une réponse au niveau international à leur plainte. Et ça, ça veut dire, ça se traduit dans des années d'attente. Et ça, c'est l'impact aussi sur les victimes.
Myriam Tebourbi et Anna Batalla, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous travaillez pour le service des pétitions et des actions urgentes au Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Ali Kafane à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.